Jean-Luc Buchalet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Pythagore Consult. On va parler avec vous eh bien, de marché immobilier. On en avait parlé ensemble en 2012. Vous aviez fait une analyse assez négative sur ce marché immobilier. On avait parlé ensemble de la bulle. J'ai envie de dire, finalement, cette bulle, elle met du temps à se dégonfler.
Alors, déjà, on va rappeler quand même un principe, c'est qu'il y a des cycles. D'accord. Si on rappelle la dernière crise qui a eu lieu entre 90 et 97, où le plus bas avait été atteint, à Paris intramuros, soi-disant la ville lumière qui ne peut jamais baisser, on avait baissé à peu près 39%. Si on rajoute l'inflation, on était dans des baisses qui étaient de l'ordre de 48-49%. Donc ça veut dire qu'il y a des cycles dans l'immobilier. Alors la particularité du dernier cycle, c'est que vous avez eu une financiarisation excessive de l'immobilier avec les banques qui ont utilisé, bien entendu, les prêts immobiliers comme produit d'appel et en essayant de faire leur marge sur autre chose de façon à attirer les clients. Donc je le rappellerai en termes de marge d'intermédiaire, donc des banques, on est passé entre maintenant et il y a 10 ans, on a perdu à peu près 400 points de base, c'est-à-dire 4% en moins. Donc on est tombé au plus bas, on était à 0,50 et donc tout cet argent a été redonné au consommateur qui a pu donc pouvoir financer son immobilier. Deuxième chose qui a eu lieu, c'est cette baisse extraordinaire, historique, comme on n'en a jamais vu. Et donc personne n'aurait imaginé, si on avait dit il y a 10 ans que les taux d'intérêt seraient à 1,30 sur le 10 ans, les gens nous auraient dit, bon, il y a une catastrophe, qu'est-ce qui se passe? On est dans un scénario à la japonaise. Et bien pile poil, on est exactement dans un scénario à la japonaise. Donc je rappellerai quand même que l'immobilier vous protège de l'inflation, mais bien entendu pas de la déflation. Et le fait que les taux d'intérêt soient aussi bas, c'est globalement une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'on est dans un phénomène de trappe à liquidité. Vous avez beau baisser les taux, on le voit très bien dans l'économie réelle, l'investissement ne repart pas, la consommation ne repart pas. Et voyez, alors même si ça redonne ponctuellement un peu de pouvoir d'achat, c'est quand même plutôt très négatif.
Alors on a eu aussi, on pourrait dire, du point de vue des ménages, sans doute, cette idée avec les crises financières que l'immobilier, finalement, c'est la valeur refuge. C'est-à-dire, allez, prenons, achetons de l'immobilier, parce qu'au moins, c'est de la pierre, on sait que...
Voilà. On a exactement eu le même phénomène après la crise de 1929. Donc, vous aviez eu l'effondrement des marchés financiers. Et donc, tous les gens ont soldé leur portefeuille, tous les actifs qu'ils avaient dans le domaine financier pour pouvoir se réfugier sur l'immobilier, sachant que les gens se disent, de toute façon, sur très longue période, ça sera pour ma retraite, j'aurai mon appartement et donc ça me protège. Et donc, on a eu ce phénomène équivalent. Donc, on a eu donc après 1929 une hausse très forte de l'immobilier jusqu'en 1935. Et puis derrière, la réalité est venu dans une crise qui a amené à la Seconde Guerre mondiale. On a eu les prix d'immobilier de 1935 à 1939 qui ont baissé. Aujourd'hui, on a eu cette crise en 2011 et bis repetita en 2012 concernant la possibilité d'un éclatement de la zone euro. Et donc vous avez eu beaucoup de gens qui se sont rendus compte que finalement l'assurance vie était peut-être pas si sûre et donc ont vendu des paquets très importants, on l'a très bien vu dans les flux, pour aller se positionner sur l'immobilier. Et on a bien atteint un pic sur l'immobilier à l'été 2011. Et depuis, on a eu d'abord une très lente érosion, et je vous l'explique, c'est que les taux d'intérêt ont baissé, ce qui a permis de resolvabiliser des couches supplémentaires de personnes. Un autre phénomène qui a joué de façon considérable, c'est l'allongement de la durée des prix. Et alors, ce qui est assez rassurant, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à expliquer la hausse des prix de l'immobilier, donc par rapport au point bas, comme je vous le signalais précédemment, en 97, essayer de comprendre les 160% qu'on a eu sur l'ensemble de la France, sachant que sur Paris intramuros, on est à plus de 170%. Alors là, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Et donc sur les 160%, vous avez eu la baisse des taux qui a joué à peu près pour 45 points sur les 160. Vous avez eu l'allongement de la durée des prêts qui a joué à peu près pour une même quantité, à peu près 45 points, donc on est à 90 sur les 160. Vous avez eu l'évolution du revenu des ménages qui a progressé de 35 points. Et vous avez le solde qui sont toutes les mesures procycliques. Donc on arrive grosso modo à expliquer, on va dire, 100-130 sur les 160. Toutes les mesures procycliques qui ont été menées par les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, systématiquement pour favoriser donc l'immobilier et donc la rente, et systématiquement en mettant des couches supplémentaires, sachant que les gens qui investissent dans l'immobilier, notamment pour un investissement personnel pour pouvoir louer, sont des gens qui n'ont pas des problèmes pour se louer. Alors il y a toute une théorie qui vous expliquait que l'immobilier ne peut pas baisser parce qu'il y a un véritable problème, il y a un déficit d'offres.
Ça fait longtemps qu'on on entend ce discours-là, effectivement, en disant que finalement, là, on n'est pas d'ailleurs, on n'est pas dans la situation des années 90, c'est ce que j'ai entendu.
Exactement. Alors, pour revenir sur ces deux points, sur le déficit d'offres, premier point, c'est que véritablement, s'il y avait un déficit d'offres, vous auriez une évolution du revenu des ménages et du prix des loyers, les loyers auraient progressé beaucoup plus vite. Et sur toute la période, vous avez une évolution parallèle, alors que les prix, par rapport aux revenus disponibles, ont progressé de plus de 90%. Donc on a une sortie par le haut, bien entendu, qui correspond à cette bulle spéculative qu'on arrive à peu près à expliquer, sauf les, on va dire, les 30 points sur les 160 qui résultent purement de la spéculation. Et d'autre part, si vous regardez quand même aussi la construction sur très longue période, vous apercevez que vous avez eu un excédent, et même si on ne prend pas la structure de la population, mais en prenant justement la déstructuration de la population avec des foyers monoparentaux, et on s'aperçoit que sur toute la période, même sur la dernière période, on est à peu près en évolution avec l'évolution de la structure de la population. Donc il y a fondamentalement, et on mélange deux choses, on mélange solvabilité et déficit d'offres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, oui, il y a un million de foyers qui n'ont pas d'abord les moyens d'acquérir, mais qui ont un mal fou à se loger. Mais ce sont des gens qui ne seront jamais propriétaires, qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont jamais été sur le marché, c'est pas eux qu'on fait la hausse. Et donc on mélange, je vous dis, solvabilité et offre. Et donc ces gens-là vont dans les logements sociaux, sachant que la construction de logements sociaux finit par entrer une compétition, faire une compétition par rapport aux logements intermédiaires, parce que lorsque un promoteur veut faire une promotion, il est obligé d'assurer un certain nombre de logements sociaux à des prix qui sont beaucoup plus bas que ceux du marché. Et donc, par effet de vastes communicants, vous avez donc les classes moyennes qui n'arrivent plus à se loger puisqu'elles n'ont pas accès aux logements sociaux, et donc on a une vraie problématique de logement du fait du prix. Et donc le meilleur moyen de resolvabiliser finalement les ménages, c'est la baisse des prix de l'immobilier.
De votre point de vue, qu'est-ce qui explique peut-être le plus la non-baisse en quelque sorte, ou la petite baisse, cette consolidation, mais pas cette baisse qu'on pourrait attendre effectivement comme lors des précédentes crises? Pourquoi on ne l'a pas pour l'instant?
Alors, on commence tout doucement à l'avoir, puisque vous avez vu, en grosso modo, sur Paris intramuros, sans glissement annuel, on est à moins 4%. Donc on a un phénomène quand même, un début d'accélération depuis à peu près l'été, donc ça s'est fait très tardivement. Donc on a une espèce d'atterrissage en douceur, et vous avez un effet moutonnier, c'est-à-dire que la hausse attire la hausse, et bien entendu on l'a très bien vu à l'été 2011, c'est-à-dire quand les gens visitaient un appartement, ils se posaient pas la question de savoir s'il était pas ou bien, vous aviez la queue dans la cage d'escalier pour pouvoir, avec des surenchères et autres. On se trouve, donc les volumes ont baissé de façon conséquente au cours des dernières années, les choses se sont plus ou moins accélérées, ça dépend des régions, donc vous avez des différences très importantes selon les régions. Et vous avez déformation aussi de l'indice, c'est-à-dire que les primo-accédants sont sortis du marché, et les seuls biens qui sont maintenant vendus sont les biens de meilleure qualité, qui sont situés dans les zones géographiques les plus favorisées, avec un ensoleillement, sans problème et autres, et avec les ménages les plus solvables. Et donc vous avez ce phénomène de déformation, c'est-à-dire que tout le reste du marché est complètement figé. Et le jour où c'est en train de se faire, où les gens vont bien être obligés de baisser les prix, la baisse va entraîner la baisse. Et donc dans notre scénario, exactement, on avait donc une baisse de l'ordre de 4 à 5% cette année, c'est ce qui est en train de se passer, et avec une accélération à partir de 2015, parce que les gens qui vendent leur appartement vont s'apercevoir que probablement la baisse est devant nous, et donc par un phénomène de mimétisme qu'on analyse très bien en finance comportementale, c'est-à-dire que les bulles entraînent des acheteurs successifs qui s'entraînent, et les baisses ont le phénomène exactement inverse.
De votre point de vue, on pourrait retrouver ce qu'on a déjà eu, c'est-à-dire dire finalement un moins 30% ne serait pas en soi impossible.
Donc si sur très longue période, en gros, les prix de l'immobilier évoluent en fonction des revenus. Donc on a bien vu ce phénomène depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1997. Vous avez une évolution parallèle entre le revenu des ménages et les prix de l'immobilier. Et on a eu un décrochage puissant par les phénomènes que je viens d'expliquer, de financiarisation excessive, de baisse des taux, d'allongement de la durée des prêts, de financiarisation. Donc on a eu cette sortie par le haut. Et donc la tendance de fond, c'est de revenir aux revenus disponibles des ménages. Et je vous le redis, en plus, dans un contexte économique relativement médiocre, avec une progression maintenant du revenu des ménages qui va être de plus en plus lente, compte tenu de ce scénario de déflation. Donc, pour pouvoir revenir sur cette tendance long terme, il faudra à peu près une baisse de l'ordre de 30%. Donc ça peut se faire de deux façons, brutalement, donc c'est pas notre scénario, je vous ai dit moins 4, moins 5 cette année, de l'ordre de moins 8, moins 10 l'année prochaine, et puis après un moins 4, etc. Et donc un lent étiolement dans la mesure où les banquiers ont fait correctement leur métier, c'est-à-dire qu'ils ont vérifié quand même que les ménages étaient solvables, et donc les prix se font quand même à la marge. Donc on n'a pas la situation espagnole, irlandaise ou américaine avec les subprimes. Ce qui explique là encore, c'est que les ménages qui achètent un bien, même si dans la dernière phase, il y a quand même une problématique de solvabilité, parce que là les gens ont serré les boulons pour pouvoir acquérir le mètre carré supplémentaire. Mmh. Donc ça va se faire lentement. Donc je vous dis, ça peut se faire et progressivement avec le peu d'inflation qu'il y a qui va éroder les prix. Donc on rentre dans un scénario qui est quand même pas très très favorable pour l'économie, sachant que la France a la particularité par rapport à l'ensemble des pays européens, c'est que la richesse immobilière dans le patrimoine des ménages est quasiment la plus importante, voilà, de l'ordre de 67%.
Beaucoup d'immobilier, beaucoup
de propriété. Voilà. Et alors, le dernier phénomène qui est très important, la pyramide des âges et la structure de la population. Et donc on sait très bien, en gros vous êtes acheteur lorsque vous avez entre 20 et 59 ans, donc ce sont les acheteurs nets et on a exactement les profils, et puis au-delà de 59 ans vous commencez à être vendeur net. Et donc jusqu'à 2005 vous aviez un excédent d'acheteurs nets compte tenu de la structure de la population du baby boom, et le baby boom s'est transformé en papy boom. Et à partir de 2005 vous avez un renversement brutal, c'est-à-dire que auparavant vous aviez à peu près 80 000 acheteurs nets supplémentaires par rapport aux vendeurs jusqu'en 2005, je vous dis. Et à partir de 2005, on se retrouve avec un scénario de 200 000 vendeurs nets. Donc la tendance de fond structurelle, compte tenu de la structure de la population, c'est plutôt la baisse. Et le dernier phénomène qui joue, c'est ceux qui ont alimenté la baisse. Vous avez une corrélation parfaite entre le taux de propriété et la spéculation. On l'a très bien vu en Espagne, le taux de propriété est très important. C'est-à-dire que ce sont les seconds accédants qui ont un bien, qui ont la possibilité de pouvoir vendre ce bien pour en racheter avec des mètres carrés supplémentaires, qui alimentent la spéculation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, quand ils achetaient en tant que primo-accédants, ils empruntaient sur 15 ans. Au bout de 15 ans, ils revendaient leur bien et ils empruntaient à nouveau. Et la grande différence, c'est que maintenant, il y a des gens qui empruntaient sur 20, 25 ans, 30 ans. Ce qui fait qu'au bout de 10, 15 ans, lorsque la personne veut revendre son bien, elle s'aperçoit que si vous avez emprunté sur 25 ans et qu'il vous reste encore 10 ans au bout de 15 ans, il vous reste encore plus de 50% du capital à rembourser. Ce qui fait que quand ils vont voir le banquier leur dit non, on ne peut plus vous prêter. Et donc on est exactement dans cette configuration. À partir de 2005, on sait exactement la structure des seconds accédants par rapport à la structure d'allongement de la durée des prêts, qui fait que ces gens-là qui ont alimenté la bulle, maintenant, se trouvent dans une position aussi délicate, où ils n'ont pas la possibilité de vendre pour acheter.
Alors peut-être le mot de la fin, sans rentrer dans les détails, mais donc la question finalement acheter ou louer est une question fondamentale pour beaucoup de foyers en France. Poser cette question-là, ça devient crucial.
On parle dans le livre, il y a un chapitre qui est consacré à cette question. Fondamentalement, vous dites, quand vous êtes dans un bien immobilier, lorsque vous louez, vous mettez l'argent par les fenêtres. Oui. Donc on a fait un calcul qui est un calcul purement économique, c'est-à-dire en faisant des structures d'appartements qui ont la même taille, etc. Et on s'aperçoit que si vous prenez sur Paris intramuros, où là la spéculation a battu son plein de façon assez considérable, il faudrait, selon les types de scénarios, dans le meilleur des cas, 21 ans pour quelqu'un qui loue, pour pouvoir retrouver par rapport à quelqu'un qui a acheté son investissement. 21 ans, vous vous rendez compte. Et si on a un scénario de baisse de l'ordre de 30% des prix de l'immobilier, là vous n'êtes plus sur 21 ans, vous êtes sur 29, 30 ans selon les arrondissements. Et sur l'ensemble de la France, c'est très variable, ça va de 15 à 20 ans. Et donc on le voit très bien, c'est-à-dire qu'en faisant vraiment le calcul économique, alors les gens vous disent, ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que la personne qui loue finalement a les moyens, compte tenu de ses revenus, de louer une surface qui est beaucoup plus importante. Et le fait d'acheter votre bien immobilier, c'est une épargne forcée, donc vous avez l'obligation de rembourser chaque mois, alors que quand vous louez, vous avez tendance à dépenser cet argent. Mais le calcul économique, c'est de faire la comparaison en disant, je mets cet argent de côté, d'un côté je loue, et j'avais apporté un certain montant de fonds propres, et j'ai emprunté. Et donc on arrive dans la période où, bien entendu, il va être beaucoup plus avantageux de louer, en attendant la baisse, pour pouvoir revenir, bien entendu, sur l'immobilier.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui, Jean-Luc Buchalet.
Merci.